Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, bienvenue. Connaissez-vous la Chine ? Alors, si vous n'avez pas eu la chance d'y aller, vous en avez forcément entendu parler. Le plus grand atelier du monde, vous avez sûrement des objets Made in China chez vous. Et vous les voyez aussi, les voisins, les voisines en Afrique, bâtisseurs de routes, de ports ou d'immeubles. Sur les 30 dernières années, la Chine est passée de statut de pays du tiers-monde à celui de puissance économique mondiale de premier plan. Comment y est-elle arrivée? Quel est son propre modèle de développement? Quelles sont aujourd'hui les attentes des Chinois? Leurs rêves aussi, sont-ils différents des nôtres? Et côté amour, comment s'aiment-ils? Pendant cette émission, eh bien, on va essayer de mieux les connaître et mieux les comprendre. On attend vos questions, vos témoignages sur la Chine, les voisins, les voisines, aujourd'hui au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Et pour parler de ce pays, de ce continent, de cette puissance, nous sommes avec Stéphane Lagarde. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes ici chez vous, hein, puisque vous êtes journaliste au service international de RFI. Pendant 5 ans, vous avez été correspondant à Pékin. Et je pense que c'est pour ça que vous aviez toute la légitimité d'écrire ce livre « Aujourd'hui, la Chine » qui sort chez Casterman, une coédition RFI, avec Mathieu Baratier et Wang Yi, que nous aurons tout à l'heure au téléphone. Alors, côté cœur, nous aurons également Dorian Malovic, qui a écrit « China Love, comment s'aiment les Chinois » chez Talendier. Eh bien, nous pénétrerons avec lui la réalité amoureuse dans l'Empire du Milieu. Alors, les messages Facebook arrivent sur fond de musique. Il y a Daniel de Cotonou qui nous dit « J'avoue que je suis stupéfait par l'enrichissement des Chinois, de leur compagnie et du développement de celle-ci. Je considère d'ailleurs très sérieusement une offre d'emploi qu'on me fait actuellement. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de la Chine. » Alpha de Conakry admet aussi que l'économie chinoise a une forte croissance et que lui, chaque année, il voit le nombre de bourses d'études qui sont octroyées à de nombreux Africains aujourd'hui. Donc, il pense que ce régime octroie une bonne formation maintenant. Bacher, je vais vous donner encore Bacher de Khartoum. Alors lui, il nous dit, moi j'en ai marre, on en a marre de la marchandise chinoise, surtout au Soudan. Alors on ne peut pas nier que la Chine est une puissance économique, mais franchement, les produits ne sont pas de bonne qualité. Quand j'achète une chemise Made in China, eh bien elle va se déchirer facilement et perdre ses boutons. Alors les voisins, les voisines, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. N'attendez pas la fin de l'émission pour participer. La Chine aujourd'hui, Stéphane Lagarde, vous avez donc été correspondant pour RFI de 2010 à 2014. Pourquoi vous aviez envie d'aller prendre le pouls de ce pays-là?
Parce qu'effectivement, c'est un pays fascinant. Alors, pas tout à fait 5 ans, hein, j'aurais bien aimé, mais non, c'était un peu plus court. Mais ça fait 20 ans, en tout cas, que je vais dans ce nord-est asiatique. Donc, on connaît bien le Japon. On a connu très longtemps, on parlait beaucoup dans les médias du Japon. Et aujourd'hui, on ne parle que de la Chine parce qu'effectivement, c'est la deuxième puissance économique mondiale aujourd'hui. Alors, quand on dit deuxième puissance, ça veut dire aussi un soft power, une culture qui s'étend. Et donc, c'était fascinant simplement de comprendre ces Chinois qui sont, quand on va en Chine, la première chose dont on se rend compte, c'est qu'ils sont tous différents. C'est très vaste, la Chine. C'est un pays continent. Et les Chinois ne parlent pas tous la même langue, même si ils ont tous la même écriture. Donc voilà, donc c'est un pays qui est fascinant, qui est divers, qui est très, très riche. Très riche sur le plan culturel.
Ils mangent pas tous du riz. Il y en a qui mangent du riz, il y en a qui mangent des pâtes,
ça.
Oui.
Moi, quand je suis parti, je me souviens, quand je suis parti m'installer à Pékin, on me disait, tu vas manger des nems. Ben, il n'y a pas de nems à Pékin. Hein. On mange plutôt des nouilles, du pain, des baozi, donc de la farine plutôt. Et puis dans le sud de la Chine, notamment à la frontière avec le Vietnam, là, il y a plus des nems, effectivement, ou des choses qui sont plus légères, en tout cas du riz qu'on connaît ici en Occident. Mais dans le nord de la Chine, ça ressemble plus à des choses qu'on voit, par exemple, en Corée du Sud. Voilà.
Vous vous souvenez le premier jour où vous avez posé le pied en Chine, l'impression que vous avez eue?
Ah, c'était il y a un petit peu, un moment déjà, c'est il y a 20 ans, je vous dis, en 96. Donc c'était à Pékin, effectivement. Et ce qui est fascinant là aussi, et ce que disent nos auditeurs, en tout cas nos internautes, c'est que ça a énormément changé la physionomie des villes, notamment. Mais toujours, on garde ces traditions. Et Dorian Malovic, que vous avez au téléphone, nous le dira. Il y a C'est un pays qui change, qui a fabuleusement changé d'ailleurs, en bien et en mal, hein, on en parlera aussi. Mais ça change, mais en même temps, il garde toute sa culture. Quoi. C'est
mais
une culture très, très, très forte.
Très vite, oui, mais cette culture et cette histoire, justement, vous l'écrivez dans votre livre, le général de Gaulle disait « c'est un pays plus ancien que l'histoire ». Alors, on le sent vraiment, on la sent cette histoire quand on vit en Chine ?
Ah oui, simplement à Pékin, vous voyez bien la muraille de Chine. Ça, tout le monde, alors, on ne la voit pas de la Lune, hein, c'est un mythe, mais elle existe, elle est présente. Voilà, l'histoire est partout, transpire dans toutes les, même dans les villes modernes en Chine, je sais pas moi, dans la nourriture tout simplement, hein. On le voit quand on mange un bol de nouilles dans le Sichuan, on voit qu'il est pimenté alors que dans l'Ouest il l'est pas. On voit toutes ces différences et on voit que ça vient de très loin, effectivement.
Et donc il renoue avec ce passé et le passé communiste, par exemple, donc 50 ans hein, sous l'ère de Mao.
C'est pas un passé, c'est un présent. Hein.
Enfin, c'est du communisme. Voilà, c'était ma question.
Est-ce qu'on, est-ce que c'est un rouge,
pays
mais non,
toujours communiste, hein.
Toujours communiste, effectivement, dominé par un seul parti. C'est unique aujourd'hui, en tout cas sur la planète. 80 millions d'adhérents à ce parti, donc c'est une sorte de grand club aussi. Et donc c'est lui qui domine. C'est un communiste qui a communisme rouge, on va dire, en tout cas un capitalisme rouge, puisque depuis maintenant 30 ans, la Chine s'est ouverte à l'économie de marché. Donc c'est unique au monde. Vous avez à la fois le communisme dans la direction politique, hein, il y a ce qu'on appelle les sept empereurs aujourd'hui du comité permanent du Parti communiste qui dirige ce pays immense. Et en même temps, c'est un pays plus que capitaliste, en tout cas dans son économie de marché. Donc à la fois des libertés civiles, mode communiste, donc très restreinte, et en même temps une économie capitaliste. C'est unique.
Donc on appelle ça le capitalisme rouge. Et c'est comme ça qu'ils le définissent eux aussi.
Non, mais c'est ce qu'on a résumé. Le Parti communiste avait appelé ça un pays de système. Alors aujourd'hui, ce n'est plus un pays de système, puisque l'économie chinoise est sur le même modèle. Mais c'est ça. Donc le capitalisme, en tout cas l'économie de marché, fonctionne maintenant de Pékin jusque dans l'Ouest chinois. Donc c'est le capitalisme partout. Mais c'est toujours régi par le Parti communiste. Il n'y a pas d'autre parti en Chine. Hein. Enfin, en tout cas, il n'y a qu'un parti qui dirige. Oui.
Alors effectivement, cette croissance, cet enrichissement hein, des Chinois, comme dit Daniel de Cotonou. Et il dit, nous avons beaucoup à apprendre de la Chine. Alors qu'est-ce qu'on a à apprendre, à votre avis, Stéphane Lagarde ?
Avant d'apprendre sur le plan culturel, c'est vrai que quand on vient d'Occident, on pense que notre modèle et enfin notre façon de penser est unique. Non, les Chinois ont tout un tas de façons de se comporter et de réagir à la vie. Moi, j'avais, par exemple, dans les choses positives, il y a des choses qui sont difficiles en Chine. Hein, on pourra y revenir quand même. C'est un régime qui est très difficile envers les Chinois notamment. Mais il y a des choses positives. Il y a peu de Chinois aujourd'hui qui se plaignent. C'est assez étonnant de voir les sourires dans les grandes villes chinoises, malgré les problèmes, malgré la pollution, malgré la pression parfois dans le travail, malgré les faibles salaires par rapport au loyer qui augmente, on a quand même beaucoup de sourires. Et quand on vient à Paris, parfois, on se dit les gens se plaignent beaucoup par rapport à ce qu'ils ont. C'est ce qu'on ressent en tout cas. Hein. C'est sûrement une histoire de ressenti. Mais c'est assez étonnant de voir cette jeunesse chinoise, même les personnes âgées d'ailleurs, qui sourient, qui sont très heureuses de voir que leur situation économique s'est améliorée.
Alors, une des plus grandes puissances mondiales, on va continuer notre voyage en Chine. Au fait, combien sont-ils exactement ? Vous le saurez après Bosco Rogers, The Middle. En Chine aujourd'hui avec Stéphane Lagarde, correspondant pour RFI dans les années 2010 jusqu'à 2013. Vous avez co-écrit avec Wang Yi aujourd'hui la Chine chez Casterman. Et justement, nous avons Wang Yi aussi en direct de Pékin. Bonjour Wang Yi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct depuis Pékin. Alors, on va en profiter d'être avec vous pour essayer effectivement de faire des calculs, de compter exactement combien de Chinois aujourd'hui. On a des chiffres officiels ?
Combien de Chinois aujourd'hui en Chine ?
Oui.
C'est 1,37 milliard.
1,37 milliard. Donc ça, c'est vraiment un géant. Mais j'ai l'impression, est-ce que c'est vraiment c'est un vrai chiffre ? Parce qu'on dit aussi que c'est pas facile de compter, parce qu'il y a des tas de gens aussi qui sont clandestins dans leur propre pays, qui n'ont pas de papier.
Ça, c'est fort possible. Mais là, la chiffre que je viens de vous communiquer, c'est un chiffre que je viens de vérifier. En fait, c'est un chiffre daté de 2015.
Alors, quel est le phénomène aussi, effectivement, Stéphane Lagarde, de tous ces migrants qu'on ne totalise pas dans le pays, qui voyagent à l'intérieur de la Chine ?
Alors d'abord, le recensement, c'est tous les 10 ans. Donc, c'était en 2011 le dernier. Moi, j'y ai assisté. C'est vrai que c'est parfois difficile. C'est immense. Hein. Il faut imaginer compter les habitants de ce pays qui est l'échelle d'un continent. Comment on fait ? Alors, c'est vrai que bon, l'État chinois a beaucoup de fonctionnaires et s'est employé à ça. Et je n'avais pas le chiffre. Merci, Wang Yi. Donc, 1,370 milliard. On était à 1,340 milliard, hein, je ne me trompe pas, en 2011, donc ça augmente sans arrêt. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que la Chine va vieillir, est en train de vieillir, et s'inquiète d'ailleurs de ce qu'on dit souvent, hein, de vieillir avant de devenir riche. Bon, elle est en train de devenir riche, donc elle ne sera pas vieille avant, mais quand même, il y a ce vieillissement. Et pour compter, ce qui est compliqué, effectivement, c'est qu'on a toujours ce qu'on appelle les Mingong. Alors, peut-être que Yi pourra nous en dire plus, mais les Mingong, ce sont ces migrants qui vont de ville en ville, ou de région, ou de province en province, plus exactement, pour trouver du travail. Hein. Donc, on se déplace beaucoup en Chine. C'est un pays qui est un vrai pays migrant à l'intérieur, hein, c'est impressionnant. Notamment, moi, j'ai toujours ce souvenir ému des trains qui sillonnent ce pays. Alors maintenant, ce sont des norias de TGV en plus, hein, qui circulent dans tout le pays. Et on peut basculer, il y a 10 millions de personnes, ou même plus, beaucoup plus d'ailleurs pendant les fêtes, qui peuvent traverser le pays comme ça, via ces trains. C'est un pays de migrants. Et parfois, c'est toute la complexité du permis de résidence, notamment qui perdure, hein, dans les villes. Parfois, certains migrants effectivement échappent à ce recensement parce qu'ils, pour plein de raisons, mais ils ont besoin de travailler dans ces villes, donc ils essayent d'échapper au recensement officiel. Mais enfin, quand même, globalement, je pense que les chiffres de l'État sont à peu près corrects. Donc, on a à peu près 1,4 milliard de Chinois aujourd'hui.
Parce qu'il y a aussi des enfants qui passent à travers les mailles ce filet. Mmh. Wang Yi, vous pouvez nous en parler, ce qu'on appelle les enfants noirs.
Les enfants noirs.
Surnuméraires,
oui, les enfants qu'on a eus au moment de la politique de l'enfant unique et qui, du coup, n'ont pas été déclarés et qui n'ont aucune existence légale.
Ah oui, ça a existé depuis la politique de l'enfant unique, en fait. Alors, en ville, je vais vous expliquer, normalement, en ville, on a le droit de faire un seul enfant jusqu'à l'année dernière. Normalement, en campagne, quand vous avez le premier enfant, c'est un fils, vous n'avez plus le droit de faire la deuxième. Par contre, si vous avez comme premier enfant, vous avez une fille, vous êtes autorisé de faire un deuxième enfant. Du coup, en fait, en campagne, c'était courant, les gens, quand ils ont un garçon, ensuite, les femmes tombaient enceintes. Pour ceux qui veulent faire d'autres enfants, ça devient illégal. Avant, quand la politique était effectuée très strictement, il y a le gouvernement local ou dans les villages, ça arrive jusqu'à le moment que des gens, une fois ils ont trouvé des gens qui ont fait des enfants illégaux, ils vont complètement démolir leur maison comme punition. Donc ça peut être assez violent. Et pour les femmes enceintes, normalement, jusqu'à, si je me souviens bien, jusqu'à 8 mois de grossesse, ça arrive encore que certains cadres locaux amenaient les gynécologues pour forcer de faire des avortements.
Des avortements forcés. Oui, et donc ces enfants, après, grandissent effectivement sans aucun papier, sans existence légale. Ils ne peuvent pas aller à l'école, ils n'existent pas.
Moi, j'avais rencontré Li Shui. Alors, Wangui, j'avais rencontré une jeune femme comme ça, qui s'appelle Li Shui, qui est devenue célèbre malgré elle, d'ailleurs. C'est un collègue de la Radio Suisse internationale qui m'avait... Radio Suisse, d'ailleurs, tout court, pardon, pas internationale, qui m'avait emmené sur voir cette jeune fille en banlieue de Pékin. Et elle n'avait incroyable. Toute sa jeunesse, donc elle avait une vingtaine d'années, elle n'avait pas pu aller à l'école, elle n'avait pas pu aller voir des amis, elle ne pouvait pas travailler aujourd'hui, tout simplement pas faire d'études, hein, on imagine, tout simplement parce qu'elle était une enfant pas reconnue par le planning familial, donc elle n'existait pas, une espèce de fantôme. C'est ce qu'on a appelé les enfants noirs, les enfants surnuméraires. Alors ce qui est étonnant dans le cas de cette jeune fille, c'est qu'on a fait ce reportage, donc encore grâce à la radio suisse qui s'était beaucoup intéressée, qui avait suivi le cas de cette jeune fille, elle est devenue une sorte d'emblème, puisque tous les journaux, tous les médias après étrangers ont fait le font encore aujourd'hui, ça c'est marrant, 6 ans après refont le reportage sur cette jeune femme, alors qu'il en existe des centaines de milliers, voire des millions hein, autour de Pékin, mais enfin des milliers en tout cas, ça c'est sûr, autour des millions en Chine. Voilà, et donc c'est toujours la même, c'est comme si tous les journaux étrangers prenaient par exemple un chômeur en France, l'appelait Paul, et il prenait toujours cet exemple. Donc cette jeune femme est devenue incroyablement célèbre, elle est même passée dans la presse officielle chinoise, en tout cas anglo-saxonne, genre le Global Times ou le China Daily.
Mais du coup, ça a fait avancer un peu la cause de ces enfants, puisque maintenant, est-ce que c'est en voie de légalisation?
Oui, alors allez-y, Longhi.
Oui. Je suis ce qu'il disait Stéphane, exactement. Oui, cette femme est devenue très connue.
Et alors, la fin de la politique de l'enfant unique, hein, vous l'avez évoqué l'année dernière. Est-ce que, puisqu'on parlait du nombre, effectivement, plus d'1,4 milliard de Chinois, est-ce qu'avec la fin de la politique de l'enfant unique, on peut s'attendre à nouveau à une explosion du chiffre à venir, Stéphane Lagarde?
Alors non, parce que en fait c'est assez compliqué, et les jeunes Chinois aujourd'hui, eh bien, il y a plein de contraintes aussi. On a beau devenir en tout cas gagner un peu plus d'argent qu'avant, hein, la Chine s'est évidemment enrichie puisqu'elle est devenue la deuxième économie du monde, ça n'empêche pas que tout est devenu plus cher aussi. Se loger aujourd'hui en Chine pour un jeune couple, et notamment dans les grandes villes, est devenu extrêmement cher. Les études coûtent très cher, on essaye d'avoir la meilleure qualité, donc parfois eh bien, on a des cours du soir, enfin tout est devenu beaucoup beaucoup plus cher. Et aujourd'hui cette fin de la... alors c'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'elle arrive maintenant, enfin cette fin de la politique de l'enfant unique, même si elle reste contrôlée, on reste à 2 enfants, mais finalement arrive un peu tard, en tout cas pour certains jeunes couples qui trouvent que malheureusement ils n'ont pas les moyens de cela. Et puis il y a aussi toute une société qui a changé aujourd'hui. Les jeunes Chinois, notamment les trentenaires, ont envie de faire autre chose et ont envie de partir en vacances, de profiter un petit peu de cette nouvelle liberté, de cette nouvelle en tout cas émancipation financière.
Ça ne colle pas avec l'idée d'une famille nombreuse. Wang Yi, puisque vous êtes à Pékin en ce moment, c'est une ville historique, elle est connue comme telle, mais elle n'arrête pas de grandir. Alors moi, la dernière fois que j'y suis allée, il y avait déjà 5 périphériques. On en est où aujourd'hui à Pékin?
Ben, on a toujours 5 périphériques, mais Pékin ne s'arrête pas de grandir, puisque les zones centrales sont beaucoup exploitées. Donc on est en banlieue de Pékin, maintenant on n'arrête pas de construire. Ça touche largement la partie avant, ça appartient à Hebei, c'est une autre province, mais maintenant ça ne s'arrête pas de grandir. Du coup, on touchait la grosse partie de Hebei. Et du coup, comme résultat, le prix de l'immobilier est devenu extrêmement cher.
Certains avaient pensé même à déplacer, enfin de changer de capitale. Je ne sais pas si c'est toujours dans les réflexions de certains médias en Chine, mais à un moment, on parlait de ça, de changer de capitale.
Exactement. Changer de capitale, okay. Non, ça, je pense qu'à un moment donné, ça s'est discuté, mais finalement, tout le monde ne parle plus de ça. Mais par contre, la mode, c'est toujours un peu... Il y a des jeunes qui parlent de s'enfuir de Pékin, Shanghai et Guangzhou en disant que la pression économique est trop élevée parce que, justement, le prix immobilier est trop élevé pour les gens, des jeunes immigrants pour ce genre de ville. Deuxièmement, en fait, le coût de fonder une famille est aussi très très élevé. Je suis ce que Stéphane a mentionné tout à l'heure, de sujet où on vient discuter, pourquoi finalement les jeunes couples, ils n'ont pas fait plus d'enfants. Parce que tout simplement, pour les jeunes, ils n'avaient pas beaucoup, ils n'ont pas assez de moyens pour avoir un deuxième enfant. Ça veut dire qu'on doit avoir une chambre de plus pour la plupart qu'ils ont confié à leurs enfants à garder par leurs parents. En Chine, il y a un phénomène, c'est les grands-parents qui gardent les enfants au lieu de nounou. Alors, leurs parents, ils ont, sachant que pour la plupart, c'est des jeunes couples, ce sont des gens après l'année 80. Donc c'est mon génération en général. Les grands-parents, ils ont justement expérience d'avoir un seul enfant, pas deux. Donc ils peuvent se permettre de garder un enfant. Mmh. La plupart ne sont pas prêts de garder le deuxième déjà.
Alors vous nous parlerez, Wang Yi, vous allez rester avec nous. On va se retrouver dans 3 minutes après le flash. Hein. Vous allez nous dire, en vivant à Pékin, peut-être les joies et les peines aussi que vous vivez donc, en ce moment dans la capitale. De quoi on se parle aussi quand un Pékinois rencontre une Pékinoise. Vous restez avec nous, Wang Yi et Stéphane Lagarde. Vous publiez avec Mathieu Baratier La Chine aujourd'hui chez Casterman, une coédition RFI. On attend vos questions, les voisins, les voisines, au 33 1 84 22 71 71 et vos messages sur Facebook. On se retrouve dans 3 minutes après le flash.
Ça va.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, les voisines, merci de nous rejoindre en Chine. Et oui, on voyage dans l'Empire du Milieu, un pays continent qui fascine de par sa taille, plus de 1 milliard 4 habitants, on nous a dit tout à l'heure, et qui est devenu donc une grande puissance mondiale en à peine 30 ans. Alors de quoi parlent les Chinois en ce moment? Qu'est-ce qui les occupe dans leur vie quotidienne? On va parler amour aussi, mariage, car j'ai cru comprendre que ça pose pas mal de problèmes. On attend vos témoignages, les voisins, les voisines, au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Et nous parlons de la Chine avec Stéphane Lagarde, journaliste au service international de RFI. Vous avez été correspondant alors en 3-4 ans à Pékin et vous êtes co-auteur de Aujourd'hui la Chine aux éditions Casterman, une coédition avec RFI. Et nous avons au téléphone Wang Yi qui est co-auteur également de ce livre. Alors on va profiter de vous avoir en direct de Pékin puisque c'est là où vous habitez, Wang Yi. Qu'est-ce qui occupe les conversations des Pékinois en ce moment?
Ah bah, ça va peut-être vous étonner, c'est comme les Français en fait. En ce moment, tout le monde parlait beaucoup de vacances aussi.
Ah, les vacances chinoises vont arriver, oui, parce que l'idée du congé payé est quand même assez neuve.
Non, en fait, on n'a pas beaucoup de congés payés. Vous savez, normalement, légalement, dehors de vacances nationaux, en général, les sociétés donnent à peu près 10 jours. Mais c'est ce que... Ça fait partie d'un phénomène que cette fois-ci, quand je me réinstalle à Pékin, en Chine, que j'ai observé depuis 2 ans. Il y avait 10 ans, quand j'ai vécu à Pékin, de classe moyenne en général, de classe moyenne de l'époque, normalement, ils parlaient de travail, à priorité de tous les autres sujets. Alors cette fois-ci, quand on est à Pékin, pendant l'été, quand on va sur le fameux WeChat, je ne sais pas si vous connaissez, Stéphane a rajouté comme contenu dans notre livre, justement, c'est une application qu'on utilise beaucoup sur notre portable. En fait, récemment, la statistique dit qu'il y a à peu près, il y a à peu près 900 millions d'utilisateurs en Chine pour cette application.
C'est WeChat.
WeChat, oui.
C'est comme WeChat. Oui. Voilà, tout le monde, quand vous voulez communiquer avec la Chine, WeChat, c'est le premier outil maintenant de communication. Alors, donc, tout le monde, en ce moment, ce qu'on met, qu'on regarde le contenu, ce qu'il met sur leur WeChat, c'est des photos de voyage. Partout dans le monde,
ça,
en plus.
Vraiment...
Donc, et oui, on les voit aussi, effectivement, à Paris. Hein, leur chiffre a énormément augmenté. Je crois que maintenant, c'est pratiquement ceux qui dépensent aussi le plus en France, en Europe, pendant les voyages. Oui, donc, comment ça se fait? Tout le monde donne aussi de l'argent à ceux qui partent à l'étranger voyager pour ramener des cadeaux? Comment ça se passe?
Ben, comment ça se passe? C'est un des sujets, en fait, beaucoup discuté, dans la société chinoise. C'est l'augmentation de classe moyenne en Chine. Alors aujourd'hui, on a comme chiffre calculé par la boîte de consultants américain McKinsey, il y a à peu près 200 millions de classes moyennes en Chine. Donc ce qui fait, c'est qu'il y a un gros changement de tendance dans la société chinoise. Ces classes moyennes, ils investissent beaucoup en voyage, au marché d'éducation, pour le sport, pour le marché culturel comme cinéma. Ce que vous voyez maintenant, cinéma en Chine, le marché du cinéma est devenu numéro 2 du monde. Alors pour le voyage, c'est pareil. Quand ils ont accumulé suffisamment d'argent, bah, ils voyagent. Donc c'est pour ça qu'on voit, il y a beaucoup de chiffres qu'on ne voit pas il y a 10 ans.
Justement, je voulais vous demander, Wang Yi, qu'est-ce qui avait pour vous le plus changé dans la vie depuis 10 ans en Chine?
Je vais réfléchir pour votre question. D'abord, qui touche tout le monde, c'est qu'on voit que la pollution est devenue de plus en plus grave. Ça, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive à Pékin. Il y a 10 ans, il y avait des pollutions, mais tout le monde ne savait pas.
Alors que là, ça fait vraiment un nuage de couleurs un peu verdâtres.
Vraiment, ça, c'est, Par exemple, là, j'ai tous les amis qui ont à la maison un purificateur de l'air. Ça, Stéphane, tu connais bien aussi. Mmh. Moi, par exemple, chez moi, il y en a 5.
Un dans chaque pièce. Oui, avec Stéphane Lagarde aussi veut réagir. Ouais.
Moi, j'avais Wangui, une amie qui était correspondante de la télévision canadienne et qui disait, quand je passe mon hiver à Montréal, je le passe devant la cheminée, à Pékin, devant le purificateur. Alors, un purificateur, pour nos auditeurs en Afrique, c'est un petit objet blanc, ou plus gros d'ailleurs, ça dépend des prix, qui purifie l'air de la maison, parce qu'effectivement, même les maisons sont envahies par cette pollution qui, effectivement, il y a 10 ans, existait, mais qui n'était pas officielle. En tout cas, on ne devait pas en parler, alors qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, y compris le gouvernement. Mmh. Et c'est devenu l'un des sujets numéro un des Chinois. Effectivement, avec les vacances, 200 millions quand même, ce chiffre est impressionnant. Ça fait beaucoup de touristes. C'est vrai qu'il y en a partout. Moi, j'étais en Corée du Sud récemment, il n'y a que des Chinois en touristes. Et puis ici, en Europe, on se les arrache, ces touristes chinois, effectivement.
Mais alors, cette pollution, Wang, c'est lié aussi à l'utilisation toujours du charbon dans la ville, ou c'est lié à quoi?
Non, pas seulement, ça lié à voiture aussi. Vous savez, on est le numéro un aussi du monde qui possède autant de voitures aussi maintenant. Et également, autour de, par exemple, Pékin, autour de Pékin, il y a beaucoup d'usines qui travaillent dans le secteur chimie aussi. Avant, il y avait pas mal de usines qui sont installées directement aux banlieues de Pékin. Là, depuis quelques années, le gouvernement de Pékin a décidé de les pousser, en fait, à aller plus loin. Du coup, ils sont à côté de Pékin maintenant, ils sont dans la province de Hebei, mais ça continue à polluer. Et donc, ces trois facteurs... avant, il y a un quatrième facteur, c'est en fait les chantiers de construction. Ça donne beaucoup de poussière aussi. Donc ça, c'était une des sources de pollution aussi pour Pékin, en tout cas.
Alors, c'est vrai qu'il y a ces villes qui grandissent, vous nous l'avez dit, pour Pékin, qui s'étalent. Il y a aussi des qui grandissent aussi en hauteur. Enfin, nous, on a des images de Shanghai ou de toutes ces villes qu'on ne connaît pas forcément, mais qui ont tout de suite 10, 20 millions d'habitants dans le sud de la Chine, par exemple. Stéphane Lagarde, vous le dites dans votre livre, les villes poussent comme des champignons. Il y a une ville qui vous a plus marqué qu'une autre pendant vos voyages là-bas?
Oh, beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai surtout cette réflexion d'un parlementaire français qui venait en visite en Chine et qui disait, dans le nord de la Chine notamment, c'était près de Shenyang, une nouvelle ville se construisait. Il disait, c'est incroyable ici parce qu'on est encore dans ce régime communiste qui peut planifier à long terme, puisque ça ne change pas le gouvernement, c'est toujours le régime communiste qui planifie donc sur 10 ans. On peut construire ici un TGV avant même l'arrivée des immeubles, avant même l'arrivée des habitants. Ça veut dire, on fait les villes. Moi, j'ai vu aussi, par exemple, ce qui m'avait marqué, une gare TGV Li Keqiang, donc le premier ministre actuel, construite au milieu de nulle part, un espèce d'aéroport immense dans la campagne chinoise, comme ça. Donc, on fait des gares TGV aujourd'hui, bien avant, là-dessus. Et puis, simplement, oui, dans les villes qui changent, ces forêts d'immeubles, ce qui est marrant, c'est qu'en Chine, on dit, on parle d'un village, et en fait, il y a 10 000 habitants. 10 millions d'habitants, on dit un petit village, et en fait, c'est vraiment énorme, quoi. Moi, je me rappelle d'avoir vu des zones industrielles comme ça, immenses, avec toujours ces disparités. Il y a encore des paysans qui essayent de cultiver au pied de ces immeubles. Voilà, donc, il y a quand même ces grandes villes, mais il y a quand même de la campagne autour, mais c'est quand même mangé par la ville, la campagne chinoise aujourd'hui.
Oui, on voit bien pour accueillir effectivement donc cette croissance démographique. Pour terminer, Wang Yi, avant qu'on prenne Dorian Malovic qui est avec nous là depuis Tokyo. Les Rutong, il y avait des vieux quartiers dans les villes. Qu'est-ce qu'ils sont devenus à Pékin? Cette vieille tradition, cette manière d'habiter dans des petites maisons un peu familiales.
Ah bah maintenant, ceux qui habitent dans le Rutong, il y a deux catégories de gens. Première catégorie de gens, c'est des gens extrêmement riches. Donc, parce que le Seruyuan, le courtyard, est devenu extrêmement cher.
Seruyuan, ça veut dire court carré. Voilà,
les courts carrés dans lesquels on peut... Oui, comme une sorte de patio. Enfin.
Des anciennes maisons chinoises, oui.
Donc c'est très cher. Ouais.
C'est très cher. Souvent, géographiquement, ils sont au centre de Pékin. Donc ça peut coûter jusqu'à 20 millions si je ne trompe pas.
De yuan.
C'est très très cher, oui.
Oui, donc ça s'est réduit à peau de chagrin, à tous ces petits quartiers, ces anciens quartiers historiques. Donc on se les arrache pour les plus fortunés. Ouais. Alors on va plonger
D'un autre côté, il y a des gens qui sont pas riches du tout. C'est des gens très populaires qui habitent dedans. Justement, il y a des immigrants aussi dedans. Alors là, ce sera des routons, en fait, dans les conditions un peu dégradées, pas encore démobilisées. Et je pense pas que le gouvernement va continuer à démobiliser les routons à Pékin. Moi, donc, ils sont préservés.
Effectivement, c'est un mélange parce qu'il y a, y a beaucoup de gens Wangyi qui sont arrivés pendant la Révolution culturelle. Donc des fois, c'est à côté un petit peu, comment dire, enfin, il y a plein de gens qui habitent dans ces cours carrés, qui ont construit des nouvelles maisons. Donc il y a de tout, effectivement, des très riches. Et puis des gens qui n'ont toujours pas accès aux toilettes, par exemple. Là, même si dans ce qui a changé beaucoup de ces 10 dernières années en Chine, c'est l'apparition de ces incroyables rayons toilettes. Et puis parce que justement, avant, il n'y avait pas ça. On allait dans les toilettes publiques. Donc ça change aussi, ça, dans les Wutong.
Alors on va plonger aussi dans le quotidien des Chinois et des Chinoises. On va aller voir du côté du cœur aussi, comment ça se passe. Et nous sommes en direct avec Dorian Malovic. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes journaliste pour La Croix. Vous allez souvent en Chine. Vous avez publié China Love, comment s'aiment les Chinois, chez Taillandier. Mais là, vous êtes en direct de Tokyo. Ce sont un peu les frères ennemis quand même entre la Chine et le Japon.
Ah bah écoutez, c'est quand même une vieille histoire là, c'est sûr qu'il y a un contentieux historique, évidemment, le Japon qui a envahi la Chine pendant des années et des années, ça c'est sûr que ce ne sont pas des grands amis, même si vous avez une invasion à l'envers aujourd'hui, qui sont des millions de touristes chinois qui viennent au Japon.
Ah, ils veulent aussi découvrir alors effectivement ce pays. Oui. Alors quel est le problème numéro un pour vous du chinois aujourd'hui côté cœur?
Écoutez, moi je crois que ce qui est intéressant, enfin, ce que j'avais voulu découvrir, c'est quels étaient les fondements des relations entre les hommes et les femmes, sur quoi ça se basait, quels étaient les ressorts des relations. Alors des relations, il y a d'abord les relations interpersonnelles, amicales, professionnelles, etc. Et puis dans les couples, comment fonctionnaient les couples. Alors on voit que bah, là encore c'est un peu générationnel, hein. Vous avez les vieux couples qui ont été scellés dans les années Mao. Alors c'était des couples politiques, hein. Vous étiez dans une usine, avec quelqu'un, il fallait vous marier. Et puis bon, ça fonctionnait, voilà, c'était les mariages politiques, les mariages idéologiques, c'était très bien. D'ailleurs, après la mort de Mao, il y a eu beaucoup de divorces à la suite de tout ça, parce que tous les gens n'étaient pas consentants, si vous voulez. Alors aujourd'hui, ce qui est vraiment frappant, c'est que quand on a du mal à se rencontrer, on entend les parents nous dire « oui, les jeunes aujourd'hui, ils font des études, ou alors ils ne font pas d'études, mais ils travaillent beaucoup, et ils n'ont pas le temps ». Donc ils font appel à des agences matrimoniales, je dirais concrètes, c'est-à-dire dans des jardins publics, vous avez des marchés aux célibataires, hein, vous avez quand même 18 millions de célibataires hommes aujourd'hui qui ne trouvent pas leur âme sœur.
Oui, mais il faut peut-être expliquer pourquoi aussi il y a autant d'hommes. Pourquoi il y a trop d'hommes, je dirais, par rapport au nombre de femmes. Donc effectivement, il y a un vrai problème de nombre déjà. Il y a plus de...
Oui, alors il y a un déséquilibre des sexes. Hein. C'est-à-dire ça, c'est dû aux conséquences de la politique de l'enfant unique lancée à la fin des années 70. Donc c'était un enfant par famille, avec évidemment en privilégiant le garçon étant le garant de la poursuite de la lignée clanique de la famille. Donc là, vous avez eu effectivement beaucoup plus de garçons à qui on a laissé la vie plutôt que des filles. Alors évidemment, tout ça, ça provoque ce déséquilibre. Donc là, il faut trouver l'âme sœur. Alors aujourd'hui, ce déséquilibre existe toujours, mais il n'est pas égal dans tout le pays. Vous avez, dans des grandes villes comme Shanghai, par exemple, vous avez plus de filles que de garçons.
Donc il faut aller les chercher à Shanghai, les filles, alors c'est ça.
Oui, sauf que la compétition, elle est rude pour un garçon, parce qu'il va falloir qu'il montre, non pas patte blanche, mais qu'il montre un super CV. Il faut qu'il soit propriétaire d'un appartement, qu'il ait une voiture et un super job. Ça, ce sont les critères. C'est ça qui était marquant, enfin, dans l'enquête. C'est quand même fondé sur la recherche d'une alliance, mais d'une sécurité matérielle. On voit bien qu'aujourd'hui, on cherche une sécurité parce qu'il n'y a pas vraiment de sécurité sociale généralisée. Il n'y a pas de retraite pour tout le monde. Donc, il faut s'assurer...
D'avoir un homme, effectivement, fort. Et on parle beaucoup d'argent dans votre livre. Alors, c'est une histoire d'amour, quand même, sur les Chinois. Mais vous avez récolté beaucoup de confidences de femmes, d'épouses ou autres. Et dans la chambre à coucher, alors, ça se voit aussi sur la couve, hein, de votre livre, eh bien, il y a le cœur. Mais au milieu, il y a un grand billet de banque.
Voilà, il y a un billet de 100 yuan, bon, c'est la plus grosse coupure en Chine, avec Mao dessus, hein, ce qui est quand même aussi assez paradoxal aussi, pour montrer que Mao reste toujours dans les esprits. Alors, évidemment, comme il y a un des titres des chapitres, c'est « Dans la chambre à coucher, on parle business et pas amour », quoi. C'est-à-dire, en fait, les couples, c'est un petit peu comme une petite mini-entreprise où bon, bah, on se met ensemble, on fonctionne, chacun a son activité, on fait un enfant, maintenant on peut en faire deux, et il y a une répartition des tâches, et voilà, la vie avance, et quand l'enfant grandit, eh ben, on va devoir le marier aussi, ça va être la responsabilité des parents, et enfin, quand on a marié l'enfant, bah, vous avez des couples voilà, de 55-60 ans qui sont libérés de toute contrainte, et voilà, qui peuvent vivre sereinement et devenir grands-parents.
Oui, ça coûte sacrément cher un mariage, hein, vous vous dites, ça peut aller jusqu'à 1 million d'euros, c'est des années et des années d'économie.
Oui, alors vous avez... Alors, comme bon, on en parlait tout à l'heure, Yi et Stéphane, vous avez un enrichissement extraordinaire d'une partie des Chinois. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même un enrichissement qu'on ne peut pas imaginer. Vous avez des fortunes qui se sont faites en l'espace de 20 ans. Vous avez donc des grands mariages fabuleux. Il s'agit de donner la face. C'est toutes les deux familles qui montrent leur richesse. Mais le mariage est fondamental. Il faut se marier, il ne faut pas rester tout seul. Bon, une fois qu'on trouve quelqu'un, on va trouver l'équivalent compatible socialement. Et puis, en fonction de ses moyens, on va avoir des petits mariages, mais tout ça est source de business. Les agences matrimoniales qui vont vous faire des albums photos, qui vont faire des shootings un peu partout dans le pays. Ensuite, vous avez la cérémonie, en plus vous avez les dîners, vous avez les invités. Donc tout ça va coûter et peut coûter énormément d'argent.
Il y a Stéphane Lagarde qui veut réagir.
J'ai dévoré le livre de Dorian parce que c'est d'abord la première enquête sur ça, sur ses relations intimes et puis pas entre les Chinois. Donc il a vraiment passé des années dessus. C'est le premier livre qu'on voit là-dessus. Ouais. Et en dehors du business, parce qu'effectivement, il faut le dire, les Chinois sont les rois du business. Donc ils le font aussi. Là, on le voit. C'est passionnant dans ce livre. Dorian nous rappelle qu'il y a encore des courtisanes aujourd'hui. Alors elles ont changé, mais il y a des courtisanes dans ce livre. Mais il y a aussi, quand même, ce qui est fabuleux, c'est de voir que la société a changé. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec Wang Yi, c'est aujourd'hui des jeunes. Dans le livre, par exemple, on voit aussi, entre guillemets, du vrai amour. Mais des jeunes qui se rencontrent autour d'un film français, dans une alliance française. Ça n'existait pas avant. C'est aussi quelque chose qui est assez tout à fait fascinant dans ce changement. Je trouve que les relations entre Chinois ont beaucoup changé, Dorian.
Absolument. Alors, ça, c'est vrai. C'est pour ça que dans le livre, il y a une tendance lourde sur ce que je viens de dire sur la sécurité, mais il y a un changement qui s'opère dans la jeune génération qui va se retrouver par affinité culturelle, par affinité de curiosité du monde. Et là, des sentiments qui se rapprochent de ce que nous, on appelle sentiment et amour, existent aussi. C'est aussi ça que j'ai voulu aussi mettre en avant, c'est que ces jeunes-là, comme l'a dit Stéphane, ils vont se dire « Ah, j'ai aimé ce film », alors évidemment, c'est le Festival de Cannes, c'est les grands films, c'est les films d'auteurs français, c'est de la littérature, c'est des choses comme ça qui vont aussi rapprocher par affinité culturelle, affective, et donc sentimentale, et donc amoureux. Donc les choses aussi vont évoluer dans ce sens-là.
Alors parlez-moi d'amour, on va continuer sur les amours en Chine. Après Odyssey qui chante That's Love. When you told me the truth, even if it really hurt, because you knew what I was worth. That's love. When you let me borrow money that you didn't really have, because you knew what I was worth. That's love. When I was at my worst, you would tell me I would blow when I thought that I would burst. You told me how to help others, and through that, discover how to put myself first. And here we are again, just confronting fears. Whether pain or gain is a bunch of tears. Blood, sweats, and tears probably disappear when smoke starts to clear. They resistance near. Pay attention to the folks who are fan of the flames. They're the ones who matter most in the gravity game. When stakes weigh you down, and they stay around to pick up pieces and you off the ground. That's love. That I seldom ever took, but your head never shook. That's love. Both knowing you were right, never shook a lever right, just gave me that look. That's love. When I had to learn the hard way and you would let me fall, but never did it out of spite. That's love. You told me never burn a bridge, if you build it then you need it, whether river or brook. And here we are again and across the path. Darwin's our friendship strongest last, but our strength lies in our first thoughts to laugh at the things that bring most hurt hearts to clash. Fought past the bull, beef bouts and brawls, passing pettiness, blame games and all. Had a few deals, time out to chill, but knowing when you need space means you feel with love. On plonge dans le quotidien des Chinois et des Chinoises aujourd'hui avec... Alors nous avons Wang Yi qui est à Pékin, qui a écrit avec Stéphane Lagarde « La Chine aujourd'hui » chez Casterman. Et également depuis Tokyo, Dorian Malovic, vous avez publié « China Love, comment s'aiment les Chinois chez Taillandier ». Alors encore une question, on va parler d'amour avant de revenir dans les usines. Vous écrivez « Les Chinois, la société chinoise en fait est sexuellement infantile ». Qu'est-ce que vous entendez par là?
Ben, écoutez, au fil des témoignages recueillis hein, auprès vraiment de dizaines de jeunes femmes, elles m'ont décrit une éducation sexuelle quasiment inexistante, à la fois venant de leurs parents, c'est quelque chose qui n'est pas transmis, qui n'est pas donné, c'est-à-dire c'est des jeunes filles qui apprennent, quand elles ont leur règle, comment on fait des bébés, comment on en fait, si on n'en fait pas, comment ça se passe. Les garçons, alors là les garçons c'est encore pire, c'est un monde, le monde féminin c'est totalement inconnu, ils ne savent pas comment c'est fait, comment il faut faire. Donc si vous voulez, les relations sexuelles ne sont pas forcément globalement très très épanouissantes ou très très équilibrantes. Alors tout ça c'est quelque chose qui ne s'est pas transmis. À l'école, vous avez probablement un cours de sciences naturelles qui vous parle basiquement des choses mécaniques, mais finalement vous vous retrouvez avec des jeunes filles qui à 20 ans, 21 ans, 22 ans ont maintenant la révolution sexuelle. C'est, il y a des relations sexuelles avant le mariage, grande majorité, mais il y a aussi beaucoup de jeunes femmes qui tombent enceintes et qui se font avorter. Et l'avortement est aussi une forme de contraception qui est largement partagée dans tout le pays.
Alors on va demander à Wang Yi, donc, qui est une jeune femme, une femme qui vit à Pékin après avoir vécu aussi en France. Alors vous vous retrouvez dans ce portrait de Dorian Malovic, donc c'est ces femmes effectivement un peu immatures qui restent enfants.
Peut-être pas. Non. Peut-être pas Wang Yi, qui est une jeune femme éclairée, si vous voulez, ça c'est sûr.
Non, mais effectivement, cette recherche des femmes de trouver le bon mari, le mari riche qui va pouvoir assurer leur jusqu'à leur retraite.
D'abord, oui, j'ai entendu ce que Dorian vient de dire pour l'amour. Déjà, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que d'abord parce que je suis chinoise, donc on a peut-être le point de vue pas complètement pareil sur le mariage, par exemple, parce que typiquement, dans notre système de valeurs, il est vrai que le mariage, le mot on va mettre avant pour le mariage, la compréhension générale, pour une chinoise ou un chinois, c'est pas seulement l'amour. L'amour, c'est important. Mais avant tout, c'est d'abord le mot, la responsabilité. Quand vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que quand on parle de mariage, c'est une alliance. Donc c'est une alliance qu'on porte deux familles, non seulement un homme et une femme. En Chine, typiquement, ça touche beaucoup aux parents aussi. Donc en Chine, on dit à l'homme, quand il arrive à 30 ans, selon Confucius, il doit fonder une famille. Pourquoi ? Parce que seulement là, ils arrivent normalement à réunir toutes les conditions pour élever une famille. Élever une famille, ça veut dire, quand tu n'as pas un système de sécurité sociale, ça veut dire tu élèves tes parents, ta femme et tes futurs enfants. Comment tu peux arriver à là ? Eh ben, il te faut une base solide. Pour économiquement. Voilà.
D'où effectivement l'importance de pouvoir gagner sa vie et de pouvoir assurer aussi bien sa famille dans tous les sens du terme, quoi. Les parents.
Exactement. Donc c'est vrai que moi je suis un peu, j'aime pas trop le mot business, parce qu'on parle business, on parle de profit, on parle d'argent pour échanger. En fait, on vend quelque chose, on achète quelque chose. Mais quand on parle de responsabilité, c'est aussi un moyen de comprendre pourquoi en Chine, on fait attention à ça. Deuxièmement, il est vrai que Dorian a parlé aussi, c'est qu'il manque, il manque de système de sécurité sociale. Donc, quand les parents vieillissent, quand ils tombent malades, comment on va faire ? Par exemple, dans mon cas, mon père, il a un cancer. Heureusement, lui, il était fonctionnaire, donc on n'a pas de soucis. Quand il va à l'hôpital, c'est le pays qui va le payer. Mais pour beaucoup de familles, surtout origine dans la campagne, aujourd'hui, on a un système de sécurité, mais ça assume jusqu'à 60%. Quand ils ont des cancers, au contraire de la France, plus les maladies sont graves, plus ils sont remboursés. Alors en Chine, c'est le contraire. Plus c'est grave, plus vous allez payer de votre propre poche. Donc, quand vous aurez une famille, vous êtes obligé d'envisager de ce genre de problème.
Alors, on parle effectivement de l'évolution de la Chine et du changement. Je voudrais terminer quand même avec cette idée reçue qu'on a effectivement des produits chinois qu'on trouve maintenant partout sur la planète, en Europe, en Afrique, bien sûr. Il y avait, par exemple, Bachir de Khartoum qui dit « Oui, les produits made in China, la marchandise, surtout, n'est pas de très bonne qualité. » Ça aussi, c'est en train de changer, Stéphane Lagarde.
Oui, c'est vrai que sa chemise se déchire à Bachir, mais ça va peut-être changer parce qu'effectivement, on est passé... C'est pour ça que dans notre livre, là, on a essayé de faire des textes courts et de résumer toutes ces sociétés et ce changement. On appelle ça du passage du made in China au made for China. Donc, on était dans l'atelier du monde. Aujourd'hui, la Chine essaye de monter en gamme, de changer de modèle de développement parce qu'elle n'a pas le choix non plus. Hein. Sinon, la croissance va s'arrêter. Hein. Elle a déjà beaucoup diminué. Aujourd'hui, on ne peut plus simplement fabriquer des produits à bas coût puisque les salaires augmentent. Les Chinois aspirent à autre chose. Ils ne peuvent pas être payés simplement 200 euros avec un bol de riz et puis ça suffit. Ils veulent aujourd'hui faire autre chose, partir en vacances. Donc tout change. Et moi, j'ai amené un objet, là, un petit hochet en bois, je ne sais pas si ça s'entend à la radio, que m'a donné un paysan chinois. C'était avant ça. La Chine, aujourd'hui, on a des applications fabuleuses, des choses incroyables en termes de technologie sur les portables. Donc la Chine change beaucoup. Elle fait toujours des objets traditionnels en bois dans les campagnes, mais quand même, on est passé à autre chose. Et il y a des produits maintenant ultra sophistiqués technologiquement, en tout cas.
Oui, un des pays, made for China,
donc fait fabriquer par les Chinois pour les Chinois.
Le pays le plus connecté du monde, et j'ai même vu qu'en Chine, il y avait des couloirs pour pouvoir circuler avec son téléphone portable.
Oui, à Chongqing, que connaît bien Dorian Malovic, une ville qu'il connaît bien, donc la plus grande ville de Chine. Oui. On peut maintenant, comme les couloirs à vélo, on se promène et puis on a un couloir pour se balader avec son smartphone sans rentrer dans une voiture, par exemple.
Pour éviter les collisions. Merci beaucoup à vous trois d'avoir passé cette heure avec nous. Stéphane Lagarde, donc journaliste au service international de RFI, vous êtes co-auteur de Aujourd'hui, la Chine aux éditions Casterman avec Wang Yi et Mathieu Baratier. Merci beaucoup, hein, Wang Yi, d'avoir été avec nous en direct de Pékin et Dorian Malovic. China Love, comment s'aiment les Chinois? C'est chez Taillandier, donc pour vous faire une idée de la Chine aujourd'hui. Merci à vous trois. Merci aussi à toute l'équipe. Hein. Et demain, alors c'est vendredi, on parle éducation et nature. Quelle place pour la nature dans l'éducation? Comment se reconnecter pour grandir en harmonie? Je vous retrouve demain. Portez-vous bien.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.